Radio Prague, les informations.
Dobrý den, bonjour, bienvenue à l'écoute. Et tout de suite, c'est les informations avec les titres présentés par Alexis Rosenzweig. Le Canada repousse la suppression de visas pour les Tchèques. La première neige est tombée dans l'ouest de la Bohême ce vendredi. Et puis du foot ce soir avec la République tchèque qui affronte l'Espagne pour les qualifications pour l'Euro 2012. Les changements au programme de réfugiés prônés par le gouvernement canadien qui devait intervenir fin 2011 ne sont pas attendus avant la fin juin 2012. L'ambassadeur du Canada à Prague, Valérie Raymond, a indiqué qu'en conséquence, l'obligation de visa pour les ressortissants tchèques ne serait pas levée avant cette date. Elle a précisé que l'ambassade suivait les événements en Bohême du Nord. Cette obligation de visa avait été réinstaurée, vous le savez, après un afflux de demandes du statut de réfugié par des Roms tchèques au Canada. Aujourd'hui, ce sont des Roms de Hongrie qui demanderaient en nombre l'asile à Ottawa. Combien d'argent allons-nous gaspiller avant d'exiger un visa pour les Hongrois, comme nous l'avons fait pour la République tchèque? C'est ce qu'a demandé un avocat en immigration cité par une agence canadienne. 500 membres des forces de l'ordre seront déployés samedi dans la ville d'Oustina de la Bohême où une manifestation est prévue, toujours dans le contexte de tensions entre Roms et non-Roms dans le nord de la Bohême. Sur les réseaux sociaux, un millier de personnes ont indiqué avoir l'intention de défiler dans les rues. Des militants du parti d'extrême droite DSSSS pourraient également se joindre au cortège. La dernière fois que ces derniers ont pris part à une manifestation de ce type dans la ville de Varnsdorf, c'était le 10 septembre dernier. Plusieurs affrontements avec la police ont eu lieu et plusieurs personnes ont été arrêté. Les premiers flocons de neige de la saison sont tombés dans la journée de vendredi en République tchèque. C'est dans l'ouest de la Bohême, à Božidar, que cette première petite chute de neige a commencé en début d'après-midi et a duré une vingtaine de minutes. L'année dernière, les premiers flocons étaient déjà tombés le 31 août à cet endroit. La neige pourrait de nouveau faire son apparition durant le week-end. La formation tchèque Pavel Haas Quartet a remporté jeudi le prestigieux prix du disque de l'année décerné par le magazine britannique Gramophone pour ses interprétations de quatuor à cordes composées par Antonín Dvořák et enregistrées dans la salle Dvořák du Rudolfinum de Prague. Fondé en 2002, ce quatuor porte le nom de Pavel Haas, compositeur tchèque d'origine juive, déporté et mort à Auschwitz en 1941. Du sport avec d'abord du tennis et la qualification de Tomáš Berdych pour les demi-finales du tournoi de Pékin. Il a été expéditif en quart en battant 6-1, 6-0 Fernando Verdasco et en demi, il affrontera le français Joe Wilfried Tsonga. L'autre tchèque encore en lice, Radek Štěpánek, a été sorti par l'espagnol David Ferrer. Et puis du football avec les qualifications pour l'Euro 2012 ce soir à Prague et un gros match pour la République tchèque qui affronte les champions du monde et d'Europe en titre, l'Espagne, dans le cadre de ses qualifications. La sélection espagnole est en tête du groupe, mais la sélection tchèque espère terminer à la deuxième place. Le match se dispute dans le stade du Sparta Prague sur l'esplanade de l'Etna. Toujours un mot de foot avec le joueur tchèque Karel Poborský, qui entre autres avec Luis Figo et Dejan Stankovic sont les anciens joueurs aux 100 sélections et plus qui seront récompensés par l'UEFA ce week-end pour leur riche passé au service de leur nation. Rappelons que Karel Poborský faisait partie des équipes tchèques finalistes de l'Euro 96. La météo, je vous le disais tout à l'heure, un vrai week-end d'automne avec de la pluie et des températures maximales autour de 10 degrés et donc peut-être un peu de neige dans certaines régions montagneuses. Voilà, c'est tout pour les infos. Dans un instant, Magdalena Hrozinková pour la suite du programme en français de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et merci à Alexis Rosenzweig pour son bulletin d'information. Dans ce programme d'actualité de Radio Prague, nous parlerons de la loi dite de lustration adoptée il y a 20 ans et qui devait protéger les nouvelles institutions tchécoslovaques des personnes qui s'étaient compromises sous le régime communiste. Nous vous en dirons plus sur la récente polémique autour de l'existence du théâtre à ciel ouvert de Český Krumlov, avant de rappeler le parcours du journaliste Petr Uhl, cette grande figure de la dissidence tchécoslovaque opposée au régime communiste, fête ses 70 ans. Enfin, le ministre français de l'Agriculture, Bruno Le Maire, a entamé jeudi à Prague une tournée à travers les pays qui constituent une minorité de blocage opposée à la poursuite du programme européen d'aide aux plus démunis. Bruno Le Maire sera l'invité de notre rubrique économique. « Il y a 20 ans de cela, le 5 octobre 1991, la loi dite de lustration était adoptée par l'Assemblée fédérale tchécoslovaque. 2 ans après la Révolution, ce texte de décommunisation devait servir à protéger les nouvelles institutions démocratiques de l'État, notamment des anciens agents et autres collaborateurs des services secrets de l'ancien régime. Initialement, cette loi ne devait rester en vigueur que 5 ans. Mais si elle a bien été supprimée en Slovaquie en 1996, elle reste en vigueur aujourd'hui encore en République tchèque, parfois considérée comme un des derniers symboles des premières années de la transformation politique du pays. À l'époque, Jan Sokol était député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire Mouvement citoyen. Philosophe et professeur reconnu, Jan Sokol a rappelé à Guillaume Narguet les grandes lignes de cette loi et replacé son adoption critiquée par certains dans le contexte du début des années 90 en Tchécoslovaquie.
Tout le monde savait qu'il y avait des collaborateurs avec le régime communiste. On a compris qu'il faut faire quelque chose avec ça. Mais il était tout simplement impossible de le faire à la base individuelle. Donc, il y avait les registres de la police secrète qui enregistraient les collaborateurs. Et donc, on a voulu faire quelque chose pour improver la crédibilité de l'État. Parce que on savait bien que dans toutes les positions du gouvernement et de l'État, il y avait des gens qui avaient collaboré avec le régime, plus que tout le monde. Et donc, la loi voulait faire quelque chose comme une mesure plus ou moins préventive pour augmenter la crédibilité des organes de l'État. Et c'est le sens, à mon avis, de la loi de lustration. Ce n'était pas, en tout cas, une loi qui appartiendrait au domaine du droit criminel. Aucun n'a pas perdu son emploi à cause de cette loi. Mais on a dit, dans telle et telle position dans le gouvernement, dans les position exposée publique, ces gens ne doivent pas participer. Voilà, c'est l'idée de la loi de l'illustration.
À l'époque, lorsque le texte de loi a été débattu, puis adopté, certains critiques ont parlé d'un instrument de vengeance, ont même expliqué qu'il s'agissait d'une pratique digne de l'ancien régime. Quel est votre avis sur la chose?
Oui, là, il me semble que mes amis, comme par exemple Zdeněk Jičínský, exagère un peu. À la différence des mesures discriminatives de 69 ou des années 70, les gens, par la loi de l'illustration, aucun n'a pas perdu son emploi. Aucun n'a pas été persécuté. Mais on a dit simplement, ces gens qui ont signé une collaboration avec la police secrète ne doivent pas être employés dans des positions plus exposées dans le système de l'État et de droit public. Voilà.
Alors cette loi a été adoptée en 1991, on l'a dit, par le Parlement fédéral, donc tchécoslovaque. Mais alors au départ, cette loi devait rester en vigueur 5 ans. En 1996, Elle a été supprimée en Slovaquie, mais pas en République tchèque, où elle a été prolongée par 2 fois. Alors d'abord donc en 1995, si je ne me trompe pas, pour 4 ans, puis de nouveau en 2000, cette fois avec une durée illimitée. Alors pourquoi, selon vous, cette loi a-t-elle été supprimée en Slovaquie et pas en République tchèque? Et a-t-elle aujourd'hui encore lieu d'être?
Oui. Le malheur, c'était que, à cause de cette loi, on a commencé à regarder les gens qui ont signé une collaboration avec la police secrète comme les coupables de tout le régime, ce qui est tout à fait faux et insensé. Il est tout à fait faux que quelqu'un qui a signé la collaboration avec la police secrète serait un coupable pour le régime. Ce sont d'autres qui peut-être ont poussé les signataires à faire un agrément avec la police secrète qui était coupable pour le régime, pas ceux qui ont signé. Et donc c'est quelque chose qui me semble tout à fait injuste Mais de l'autre côté, qu'est-ce que vous voulez faire avec, après la chute d'un régime qui a pourtant fait de tellement de maux qu'il faut faire un changement, même dans les organes de l'État.
C'était le philosophe et ancien politique Yann Sokol qui revenait donc sur le 20e anniversaire de la loi dite de lustration en République tchèque. Vous pourrez entendre l'intégralité de cette interview avec Yann Sokol le 17 novembre prochain à l'occasion du 22e anniversaire du début de la révolution de velours qui a entraîné la chute du régime communiste. Le théâtre à ciel ouvert dans le parc du château de Český Krumlov divise la société tchèque en deux camps inconciliables. D'un côté, ceux qui désirent le conserver et de l'autre, ceux qui demandent sa démolition. Le problème a aussi une dimension internationale et pourrait aboutir à la décision de rayer le site historique de Český Krumlov de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Václav Richter.
Le théâtre du parc du château de Český Krumlov est connu et populaire non seulement en raison de son emplacement dans un des plus beaux parcs baroques du pays, mais grâce aussi à son mécanisme ingénieux. C'est un plateau avec des sièges placés dans l'allée centrale qui tourne pendant les spectacles et oriente les spectateurs vers différents endroits du parc. L'architecture industrielle du plateau est cependant absolument incompatible avec le charme du lieu. Placé dans le point d'intersection des allées visibles de partout, le théâtre brise brutalement les lignes principales de la conception du parc, qui est un chef-d'œuvre d'architecture paysagiste. Il n'est pas étonnant donc que l'UNESCO tienne à sa démolition. Ce projet se heurte cependant à la résistance farouche des défenseurs du théâtre, qui sont beaucoup plus nombreux que ses adversaires. Le président de la section tchèque du Conseil international des monuments et des sites, Josef Stultz, ajoute encore un autre argument pour le démontage du théâtre.
Une des raisons sérieuses est qu'il faille tenir les promesses et les engagements librement consentis. La République tchèque ne tient pas ses promesses depuis 19 ans. En inscrivant Český Krumlov sur sa liste du patrimoine mondial, l'UNESCO tenait compte de l'information selon laquelle le théâtre tournant n'était qu'une construction provisoire et des recherches étaient en cours pour trouver un autre endroit où il serait définitivement installé.
Ce problème discuté depuis 19 ans est aujourd'hui très politisé. Les défenseurs du théâtre, encouragés par une partie de l'opinion, refusent de rendre les armes. Ils semblent même décidés à se mesurer à l'UNESCO qui perd patience. Le ministre de la Culture, Jiří Besser, cherche lui aussi à sauver le théâtre, bien qu'il appréhende les conséquences d'une telle décision.
Les organes régionaux de Bohême du Sud, le théâtre de Bohême du Sud, la ville de České Budějovice et le ministère de la Culture sont unanimes à estimer que le théâtre tournant doit rester à sa place. Évidemment, nous sommes en train de prendre une décision sur le site de Český Krumlov, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et notre attitude pourrait remettre en cause cette inscription.
En juin dernier, le Comité du patrimoine mondial a appelé la République tchèque à accélérer le démontage du théâtre en constatant que le site de Český Krumlov risque d'être inscrit sur la liste des monuments menacés. Face à ce danger, Jiří Besser a créé une commission qui vient de trouver un compromis. Le théâtre restera à sa place, mais sera reconstruit et humanisé. Le ministre se veut optimiste.
Je pense que nous avons ici assez d'architectes de qualité qui seront capables de préparer un projet pouvant être approuvé. Et puis, il faudra déployer toutes les forces diplomatiques de l'État tchèque vis-à-vis de l'UNESCO et lutter pour le théâtre tournant.
Il est évident qu'une telle solution ne plaira pas à l'UNESCO, qui risquerait de perdre sa crédibilité en tant qu'institution protégeant les monuments historiques. L'offensive diplomatique du ministre, si elle a lieu, ne fera donc très probablement qu'attiser le conflit qui pourrait nuire au site historique de Český Krumlov et éclabousser toute la République tchèque.
Le journaliste francophone défenseur des droits de l'homme et un des leaders de l'opposition contre le régime communiste, Petr Uhl, fête ce samedi 8 octobre ses 70 ans. Politiquement, je me situe à gauche, mais c'est une gauche telle que nous la connaissons en France, par exemple. Ce qui existait en Tchécoslovaquie, c'était une déformation stalinienne et perverse du système, a expliqué aux médias tchèques Petr Hůl, qui a passé au total 9 ans dans les geôles communistes. Diplômé en construction mécanique, le jeune Petr Hůl respirait dès le milieu des années 60 l'air révolutionnaire lors de ses nombreux séjours à Paris. Par ailleurs, c'est dans la capitale française qu'il a appris l'invasion des chars soviétiques en Tchécoslovaquie en août 1968. De retour à Prague, il est promu à la tête du mouvement de la jeunesse révolutionnaire, une organisation illégale qui regroupait surtout des étudiants de la faculté des lettres de l'université Charles. Cet engagement lui a valu 4 ans d'emprisonnement de 1969 à 1973. Après sa libération, Petr Hůl épouse Anna Chabatova, qui deviendra 10 ans après la révolution de velours médiatrice adjointe pour les droits de l'homme. Le couple se range parmi les premiers signataires de la charte 77, la fameuse pétition des dissidents opposés au processus de normalisation de la société tchécoslovaque. Petr Hůl cofonde également le comité pour la défense des personnes injustement poursuivies. Cette activité a pour conséquence une deuxième peine de prison purgée entre 1979 et 1984. Petr Hůl s'est souvenu pour Radio Prague de ses 2 séjours derrière les barreaux.
Comme j'étais 2 fois en prison pour une longue période de fois, c'était 69 jusqu'à 73. Et alors ces 4 années, c'était très dur pour moi parce que je rentrais dans une situation de normalisation qui était beaucoup pire que la situation en 69 lorsque j'étais encore en liberté. Et c'était un peu une situation désespérée, parce que la société s'est embourgeoisée, on est entré dans un isolement et dans une privatisation des intérêts. Mais peu à peu, nous avons... il s'est créé à Prague et ailleurs une ambiance... si vous voulez, militante ou combative. Et vers la fin de 76, nous avons fondé la charte 77, c'est-à-dire la charte, pardon...
77.
Et lorsque j'étais arrêté en 79, pour 5 ans, et je suis rentré dans la charte, qui était plus loin qu'avant, qui était plus forte déjà, il y avait moins de répression, et il y avait surtout beaucoup d'autres initiatives et beaucoup d'autres activités sur le plan culturel, politique, environnemental, religieux, tout ce que vous voulez. Alors, la rentrée, la deuxième rentrée en 84, ce n'était pas psychologiquement, sur le plan politique au moins, ou sur le plan de mes activités publiques, ce n'était pas un problème. Le problème était 10 ans avant.
Jusqu'à la chute du régime communiste, ou plutôt totalitaire, comme le remarque Petr Hůl, de même qu'il parle d'opposants ou de militants et non pas de dissidents, terme utilisé par la police de l'époque. Bref, jusqu'à novembre 89, Petr Hůl ne peut travailler que comme ouvrier dans une entreprise de chauffage. En Tchécoslovaquie, puis en République tchèque démocratique, il poursuit son engagement politique et humain, notamment en tant que chargé gouvernemental des droits de l'homme ou encore comme président du Conseil interministériel pour les affaires de la communauté rome. La situation de celle-ci lui tient beaucoup à cœur, tout comme par exemple la perception dans son pays de l'expulsion de la population allemande du territoire tchécoslovaque après la Deuxième Guerre mondiale. Une lacune, selon Petr Hůl, dans l'histoire commune des Tchèques et des Allemands dont on parle peu. Aujourd'hui chroniqueur du quotidien de gauche Pravo, Petr Hůl est titulaire de nombreux prix en République tchèque comme à l'étranger, parmi lesquels le prix Charles IV, décerné par l'Association des Allemands des Sudètes, ou encore le prix Reporters sans frontières. Le ministre français de l'Agriculture, Bruno Le Maire, a entamé jeudi à Prague une tournée à travers les pays qui constituent une minorité de blocage opposée à la poursuite du programme européen d'aide aux plus démunis en 2012-2013. Les 6 États qui constituent la minorité de blocage sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la République tchèque, le Danemark et la Suède. La République tchèque est persuadée que la politique agricole commune dans ce domaine ne serait pas suffisamment efficace, selon un compte-rendu du ministère tchèque de l'Agriculture. La plupart des compétences dans le domaine de la politique sociale sont du ressort des États membres, indique ce texte expliquant la position de Prague. Lancé en 1987 sous l'impulsion du président de la Commission européenne de l'époque, Jacques Delors, à l'appel du fondateur des Restos du Cœur, l'humoriste français Coluche, le PAD est menacé d'une réduction très forte en raison de la baisse des excédents agricoles. On écoute le ministre français Bruno Le Maire, qui a d'abord évoqué au micro d'Alexis Rosenzweig les discussions avec les membres du gouvernement tchèque à ce sujet.
Économie, commerce.
On a eu des discussions constructives, longues, qui ont permis de bien comprendre les arguments des uns et des autres, mais je ne le cache pas, ce sera une négociation difficile. Et ce sera difficile d'aboutir. Nous allons voir quelle est la position des Allemands lundi prochain, quelle est la position des Danois. Vous savez que la minorité de blocage aujourd'hui, c'est 6 États, dont la République tchèque, l'Allemagne, le Danemark et la Suède. Donc on va aller voir chacun d'entre eux pour essayer de les convaincre d'évoluer. Mais je ne vais pas vous dire c'est facile, c'est gagné, parce que c'est objectivement une négociation très difficile. Pourquoi ? Parce que derrière cette négociation et derrière ces difficultés et ce blocage, il y a aussi des réalités politiques et financières. C'est pour ça que c'est important de discuter, d'échanger, de trouver des compromis. Première réalité, la République tchèque n'est pas bénéficiaire de cette aide. Elle ne touche que 120 000 euros par an. Alors c'est justement un sujet qu'on a abordé. Je dis, après tout, si vous estimez que la définition des plus démunis en République tchèque est trop étroite, et par conséquent vous ne bénéficiez pas assez de ce programme, à vous de définir de manière plus large ce que sont les plus démunis. C'est une compétence nationale. Ils peuvent très bien définir de manière plus large, y compris pour 2012 et 2013, ce que sont les plus démunis. Donc il y a des possibilités d'ouverture et de trouver des compromis. Deuxième remarque, il y a aussi une question de fond, une question de principe, aussi bien pour la République tchèque que pour un certain nombre d'autres pays. Ces pays estiment que les politiques sociales ne sont que du ressort de la compétence nationale. Ils ne souhaitent pas que l'Union européenne se mêle de ces questions sociales. Donc il y a des arguments derrière qui sont forts. Ce n'est pas la position de la France qui, elle, estime qu'on peut avoir une vision sociale de l'Europe, qu'il peut y avoir des politiques sociales, mais il y a derrière des enjeux qui sont lourds, des enjeux qui sont forts. Si c'était simplement un déblocage technique à opérer, on aurait déjà réglé le problème. Mais c'est un enjeu politique plus important. C'est pour ça que je dis, les discussions étaient constructives, utiles, mais le chemin reste long avant d'obtenir un accord.
Pourquoi entamer votre tournée par la République tchèque ? Est-ce que les Tchèques sont des 6 pays les plus susceptibles de changer leur position à l'heure actuelle ?
Je crois que dans les 6 États, la République tchèque fait partie des États qui ont montré qu'ils étaient les plus ouverts à une discussion sur ce sujet, et qui n'en faisaient pas une question de principe, qui comprenaient les arguments français, qui étaient prêts à les étudier, et à les étudier au plus haut niveau, dans le cadre de la réunion du gouvernement de la République tchèque. Donc, j'ai trouvé que c'était un signal positif. C'est ce qui m'a été dit lors du dernier conseil des ministres de l'Agriculture par mon homologue tchèque. Donc, partant de cette ouverture qu'a faite le gouvernement tchèque, j'ai décidé de commencer mes déplacements par Prague. J'ai reçu des messages aussi ouverts de tous les autres États qui font partie de la minorité de blocage, les 6 États qui composent cette minorité de blocage. J'irai ensuite à Berlin, parce qu'il est évident que l'Allemagne est un acteur essentiel en Europe et que sa position sera tout à fait déterminante sur le sujet. Et puis j'irai ensuite à Copenhague, parce qu'au Danemark, il y a eu un changement de gouvernement, comme vous savez. Par conséquent, il faut aussi utiliser ces changements politiques pour défendre nos propositions. Moi, simplement, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'il ne s'agit pas de mettre un État ou un autre dans un coin. Il ne s'agit pas de montrer du doigt un État ou un autre. Il s'agit d'essayer de trouver une solution de compromis ensemble, en se disant, attention, l'enjeu il est majeur, c'est à la fois un enjeu de solidarité à l'égard des plus pauvres, et c'est un enjeu de conception de l'Union européenne. Est-ce que, dans ces temps de crise, on va vers une Union européenne plus solidaire ou une Union européenne plus égoïste ?
Vous parlez des critères de définition des plus démunis. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les critères français et les critères tchèques ?
Il y a une énorme différence qui fait que aujourd'hui en France, vous avez près de 4 millions de personnes qui bénéficient de ces programmes d'aide alimentaire, avec des associations qui font un travail sur le terrain tout à fait exceptionnel et à qui je veux rendre hommage. Il faut bien se rendre compte que ça veut dire d'aller expliquer aux Restos du Cœur, aux banques alimentaires, au Secours catholique. Voilà, vous faites un très bon travail. Vous avez rassemblé de la nourriture, rassemblé des stocks pour nourrir tous ceux qui n'ont pas de quoi se payer un repas par jour. Eh bien, on va arrêter de vous financer. Moi, je ne suis pas prêt à porter ce type de message. Je ne suis pas prêt à laisser tomber ces associations et le travail qu'ils font pour ceux qui n'ont pas de quoi se payer un repas par jour. Et je me battrai jusqu'au bout pour faire en sorte qu'on ait gain de cause sur ce programme européen. En République tchèque, la définition des plus démunis est beaucoup plus étroite et fait que ce programme ne concerne qu'un nombre très restreint de personnes. Et cela m'a été dit par 5 000 personnes. Nous, c'est près de 4 millions. Donc je comprends très bien que les Tchèques me disent « Voilà, dans ce cas-là, regardons si on ne peut pas un peu élargir le programme ». Moi, ça ne me pose aucune difficulté. S'il faut élargir le programme, faire en sorte que les Tchèques bénéficient plus de ce programme d'aide aux plus démunis, oui, très bien. Plus il sera efficace, plus il bénéficiera à ceux qui en ont réellement besoin, mieux ce sera.
C'était le ministre français de l'Agriculture, Bruno Le Maire, au micro de Alexis Rosenzweig dans la rubrique économique de Radio Prague. Et c'est la fin du programme de Radio Prague en langue française. Magdalena Rosinkova au micro vous remercie de votre attention.